Bonjour à tous. Est-ce que à la régie, vous avez bien eu la projection super? Docteur, vous n'allez tout de même pas me couper le bras? C'est un jeune militaire sur le champ de bataille qui dit ça, parce qu'il a la gangrène dans son bras. Et pour ne pas que la gangrène se répande dans tout le corps, ce que le docteur va devoir faire, c'est finalement lui couper le bras. Et sous le choc, le militaire, donc juste avant d'être anesthésié, lui demande « Docteur, vous n'allez tout de même pas me couper le bras ?» Et le docteur lui répond « Non, je vais vous sauver la vie. Mais pour cela, je vais vous couper le bras. » Cette image un peu imaginaire que j'emprunte à John Piper illustre une action à double tranchant. C'est ce que fait Jésus lorsqu'il dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement » pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est ainsi que Jésus éclaire le monde. Son éclairage fait deux choses. Il fait à la fois, il nourrit une compréhension de qui il est, et à la fois, il montre à quel point on peut être bloqué ou aveuglé dans le fait qu'on ne reconnaît pas qui il est, et qu'on rejette Christ. Il ouvre nos yeux, et il montre l'aveuglement de ceux qui pensent voir. Alors, si c'est vrai concernant la conversion, dans le passage qu'on va lire ensemble ce matin, c'est aussi vrai dans notre vie de chrétien, dans une autre échelle, dans le sens où la repentance, la prise de conscience, l'éclairage du Saint-Esprit dans notre vie fait cette œuvre aussi de mise en lumière et fait cette double action à la fois de nourrir et à la fois des fois de montrer dans quelle dans certains cas de figure, qu'on a des blocages. Et pour nous éclairer sur ce sujet, ce matin, je vous propose de méditer le chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Jean chapitre 9. Dans ce passage, c'est l'histoire où Jésus guérit un aveugle né. Et on va voir cet aveugle qui est guéri, qui va voir de plus en plus clairement qui est Jésus. Et en parallèle de ça, on va voir les pharisiens qui, au contraire, leur aveuglement devient de plus en plus visible dans cette histoire. Et nous allons voir ensemble, du coup, si ça marche, que Jésus, voilà, éclaire notre aveuglement spirituel, et il le fait donc en ouvrant les yeux, il le fait aussi en montrant notre aveuglement. Mais si tout cela nous est donné dans l'évangile de Jean, l'auteur Jean, l'apôtre Jean, nous le dit, c'est pour que nous puissions mettre notre confiance en Jésus, afin que ça puisse être bénéfique. Et avant la lecture de Jean chapitre 9, je vous invite à la prière. Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu aussi dans notre monde pour nous éclairer. Merci parce que toi, tu vois clair, Seigneur, sur l'histoire du monde. Tu vois clair aussi sur notre histoire personnelle. Et merci parce que nous avons besoin de toi pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin, pour nous amener toujours à marcher à ta suite. Et je te prie pour que ta parole ce matin soit efficace, pour que ça soit constructif dans nos vies. Et vraiment, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse pleinement éclairer ta parole dans nos cœurs. Amen. Alors, je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 9. Et il y a certains passages qu'on va résumer, parce que sinon ça va faire un peu trop long. Ça commence avec la guérison. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et revint voyant clair. Alors les versets ensuite, 8 à 23, je vous les résume, où c'est d'abord ses voisins qui s'interrogent sur la guérison de l'aveugle. Ils se demandent est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est pas lui. Ensuite, ils l'amènent aux pharisiens, les responsables locaux, qui l'interrogent ils l'interrogent en se disant, mais est-ce que Jésus est vraiment un envoyé de Dieu ou pas? Parce qu'il a quand même guéri un jour du sabbat, donc ça pose problème. Ils n'arrivent pas à une conclusion convaincante pour eux, qui est de pouvoir discréditer Jésus. Du coup, ils appellent les parents pour voir s'il est bien aveugle de naissance. Les parents bottent en touche. Et du coup, on arrive au nouvel interrogatoire où les pharisiens interrogent à nouveau l'homme aveugle qui a été guéri. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Si c'est un pécheur, je ne sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau « Mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu nous a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons même pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire de quelqu'un qui ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient là avec lui entendirent ses paroles et lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, « Nous voyons, ainsi donc, votre péché reste. » Premièrement, on voit que la guérison de l'aveugle, on voit cet aveugle qui est guéri, qui voit de plus en plus clair. Et cela nous parle sur la vision spirituelle. Voir spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Voir spirituellement, on voit que l'homme, à partir du moment où il est guéri, il va grandir progressivement dans sa compréhension de qui est Jésus. Au début, il ne sait pas trop qui c'est. Il l'appelle l'homme Jésus, au verset 11. Ensuite, il le nomme comme un prophète, verset 17. À un moment donné, il dit, je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais qu'il m'a ouvert les yeux. Et puis progressivement, il se dit, ça ne peut pas être un pécheur, parce qu'il a vu ce qu'il a fait. Et il l'appelle ensuite Seigneur, au verset 37, dans le sens où il reconnaît qu'il y a quand même une autorité, qu'il est envoyé de Dieu. Et une fois que Jésus lui a révélé qu'il était le Fils de Dieu, alors il reconnaît Seigneur, mais dans le sens de roi, dans le sens de celui que je dois obéir. Et il met sa foi en lui, et il va même jusqu'à se prosterner devant lui, chose qui est normalement pour un juif quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas se prosterner devant quelqu'un d'autre que Dieu, même devant un ange, l'ange a repris Daniel quand il s'était prosterné devant lui. Et là, on voit que Jésus ne le reprend pas, on voit qu'il est donc assimilé à Dieu. On voit au travers de cette progression que la véritable vision, c'est donc de reconnaître la vérité, véritable identité de Jésus. Et ceux qui reconnaissent que Jésus est envoyé de Dieu voient spirituellement. Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que l'homme n'a pas une compréhension totale, directe, de qui est Dieu, de qui est Jésus. Et ce qui caractérise sa vision, c'est plutôt qu'elle est croissante et qu'elle se nourrit au fur et à mesure que Jésus aussi, à la fin, se révèle. Donc, ce n'est pas une connaissance exhaustive, mais c'est une connaissance qui grandit à la lumière de la révélation de Jésus. Et surtout, par contre, dès le début, c'est aussi une connaissance qui clarifie le rapport entre la relation entre Jésus et lui. Cette compréhension de qui est Jésus lui permet de comprendre que Jésus est roi et que du coup, il lui doit obéissance totale. Et cette compréhension lui amène à comprendre que Jésus est Dieu et donc il y a une adoration. Et nous, quelle est notre compréhension de l'identité de Jésus? Est-ce que cette compréhension, est-ce qu'elle est figée ou est-ce qu'elle est grandissante au fur et à mesure qu'on s'expose à la parole de Dieu? Est-ce qu'on a mis Jésus dans une boîte, on comprend ça de Jésus et il y a des choses qu'on accepte et puis il y a des choses qui nous troublent un peu puis on les met de côté? Ou est-ce qu'on prend Jésus tel qu'il se présente, avec les choses qu'on comprend, les choses qu'on ne comprend pas, et on chemine avec lui? Est-ce que la nature de la relation est claire? Est-ce que on accepte du coup une part de Jésus tant qu'il est amour, mais il y a une certaine limite où on dit là je ne peux pas te suivre? Ou est-ce qu'on reconnaît que lui il est le roi, que lui il est Dieu, que lui c'est toute chose et on peut, même si c'est difficile, progressivement lâcher notre propre vision du monde et marcher dans son obéissance? On voit aussi dans l'aspect de vision spirituelle, dans cet homme-là, qui a une prise de position. En même temps qu'il grandit dans sa compréhension, on voit que progressivement, au contact des autres, il prend une position sur « voilà, je comprends qui est Jésus et voilà qui il est ». Et contrairement à ses parents qui ont peur d'être exclus de la synagogue, l'homme prend position pour dire que Jésus ne peut pas l'avoir guéri sans avoir la faveur de Dieu. Il va même jusqu'à dénoncer l'incohérence des raisonnements et des pharisiens, et il en paye le prix parce que, au final, l'homme est exclu de la synagogue. Lorsqu'au verset 34, il est dit qu'ils le chassèrent, c'est pas simplement ils le chassèrent de la salle, mais c'est qu'il subit l'exclusion de la communauté. Et dans ce passage, et puis dans les chapitres précédents, on voit aussi que l'identité de Jésus est clivante. Elle pousse les gens à se positionner. On voit d'ailleurs que ça crée un peu de confusion parce que les uns disent qu'il a un démon, d'autres disent que ce n'est pas possible. Et on voit que la personne même de Jésus amène à se positionner pour ou contre. De même, alors ce qui est intéressant, c'est que l'homme, au bout d'un moment, il se positionne par rapport à un événement, un fait, c'est sa guérison. Et je trouve ça intéressant parce que l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, le message et la personne de Jésus, est aussi un événement historique. L'évangile, c'est que, historiquement, Dieu a choisi de faire Jésus roi de tout l'univers et qu'il a mis tout sous son autorité. Le mot évangile en grec, c'est bonne nouvelle, c'est le mot qui est utilisé pour dire lorsqu'il y a un roi qui naît, lorsqu'il y a un roi qui est intronisé, lorsqu'il y a cette notion de prise de pouvoir. Et le mot kérigma, qui est proclamation de l'évangile, le fait de prêcher l'évangile, c'est le mot qui est utilisé en grec pour annoncer, déclarer cette annonce, cet événement politique. C'est une déclaration officielle en disant, voilà, à partir de maintenant, le roi ou l'empereur, c'est telle personne, que ça vous plaise ou non, c'est un fait. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est pas simplement Dieu qui m'aime et qui fait de bonnes choses pour moi. Ça en découle. Mais c'est premièrement Dieu qui vient rétablir toute chose, qui vient prendre le pouvoir pour, in fine, éradiquer le mal et mettre en place sa volonté. Et par rapport à cet événement historique, on doit se positionner. Est-ce qu'on accepte cette autorité de Jésus ou est-ce qu'on la rejette en disant « ça ne me parle pas » ou « c'est peut-être bien pour vous, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas ». Il y a un positionnement qu'il y a à avoir par rapport à l'Évangile. On voit que Jésus, donc, quand il ouvre les yeux, ça nous nourrit, ça nous montre qui il est, ça nous amène aussi à nous positionner. Mais cette identité pose aussi, fait aussi réagir. On voit que quand Jésus est clair, il montre aussi notre aveuglement. Et dans ce chapitre, la première action des pharisiens, c'est de dire c'est juste pas acceptable qu'il ait guéri quelqu'un un jour de sabbat. En plus, il l'a pas simplement guéri, il a fait un travail, il a fabriqué de la boue. Un jour de sabbat, c'est pas possible. S'il est envoyé de Dieu, c'est pas cohérent avec le reste de la Bible, avec le reste de la Torah. Et on voit que dans les chapitres précédents, cette opposition par rapport à la personne de Jésus est même grandissante. En même temps, Jésus, il a fait un peu fort. Hein. Il dit qu'il est connu de Moïse, qu'il est connu d'Abraham, il dit qu'il a vécu avant eux. Les gens lui répondent, ben, t'es bien gentil, mais t'as même pas 50 ans. Ces gens-là sont morts il y a 1500 ans et 2000 ans. Comment c'est possible ? Et Jésus ne répond même pas à cela. On a l'impression qu'il les provoque. De la même manière, on a l'impression qu'il balance des vérités sur lui sans s'inquiéter, sans avoir une pédagogie de dire ben voilà comment c'est expliqué dans l'Ancien Testament, voilà qui je suis. Il aurait pu faire ça, il ne le fait pas. Et de la même manière, quand il fabrique de la boue pour guérir l'aveugle, il sait que ça va provoquer une réaction chez les autres. Alors, est-ce que Jésus est juste provocateur ? Non. Il veut juste, par contre, il veut amener à faire réagir. Il y a un proverbe, chapitre 26 et verset 12, proverbe 26, verset 12, qui dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Autrement dit, tu ne peux rien attendre de lui. » Et ce que fait Jésus, c'est un peu le principe des fois des psychologues qui disent « Tant que tu n'as pas pris conscience de ton problème, je ne peux rien faire pour toi. Je pourrais t'en parler, je pourrais te proposer plein de choses, mais si tu n'as pas conscience que tu as un problème, je ne peux rien faire. » Et donc Jésus, dans les piquant au vif, en n'essayant pas d'être dans la douceur, mais en les faisant réagir, c'est pour leur faire montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. C'est un peu l'effet miroir qui fait réagir. C'est un peu comme lorsqu'on dit en criant à son enfant « arrête de crier ». Et c'est à ce moment-là où normalement on doit avoir une prise de conscience en disant « ben, en fait, s'il crie, c'est peut-être parce que je lui montre l'exemple. Donc j'ai peut-être quelque chose à faire de mon côté ». C'est un peu ce que fait Jésus avec cet effet miroir. Et c'est d'ailleurs remarquable, enfin intéressant, que ce que les pharisiens pointent du doigt chez Jésus, ils disent « mais t'es présomptueux, comment tu peux te mettre au niveau de Moïse, tu es présomptueux, comment tu peux te mettre au niveau d'Abraham ?» Cette présomption, et en même temps, il le condamne en disant « mais t'as une mauvaise interprétation de la loi », ces deux aspects qui pointent du doigt chez Jésus sont en fait les deux problèmes que eux-mêmes ils ont. L'orgueil, le fait de se croire au-dessus des autres, et une mauvaise compréhension de la loi. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'arrive aussi des fois d'être irrité d'un trait de caractère chez quelqu'un d'autre, et qu'au final, lorsque j'ai le courage de me poser et de me dire mais pourquoi ça me fait réagir, je me rends compte qu'en fait c'est parce qu'il y a un trait de caractère que chez moi je ne supporte pas, et du coup c'est pour ça que je réagis aussi fortement en voyant cela chez les autres. Et du coup, Jésus nous invite, encore une fois, pas à chercher la paille dans l'œil du voisin, mais à regarder la poutre dans le nôtre, et de voir qu'est-ce qui me fait réagir chez la personne de Jésus, qu'est-ce qui me fait réagir aussi fortement, j'ai envie de dire, chez les chrétiens, dans l'Église, et qu'est-ce que Dieu veut pointer du doigt, finalement, chez moi, en me montrant qu'il y a quelque chose où je me mets, je suis intransigeant vis-à-vis des autres, mais peut-être finalement c'est parce que chez moi ça me fait réagir. Et chez les pharisiens, du coup, les signes de l'aveuglement sont ces deux aspects-là. Ce sont le fait qu'ils jugent avec les apparences et le fait qu'il y a une absence de remise en question. Ils jugent avec les apparences parce qu'ils ont une mauvaise utilisation de la Torah. Et comme le dit Jésus dans les chapitres précédents, ils utilisent la Torah pour juger avec, selon les apparences. Pour Jésus, ils lui disent « Tu as guéri le jour d'un sabbat, du coup, de fait, ça t'exclut d'être envoyé de Dieu. » Mais eux, ça ne leur pose pas de problème de faire un procès de Jésus sans même qu'il soit présent. D'utiliser une tierce personne, en l'occurrence l'homme aveugle qui a été guéri, pour lui faire un interrogatoire forcé, non pas en cherchant à trouver la vérité, mais en essayant de faire dire à cet homme que Jésus est un pécheur. Eux, ça ne les dérange pas. Et on voit dans ce passage qu'il y a complètement une absence de remise en question de la part des pharisiens. Ils disent, nous, on a reçu la loi de Moïse. Nous, on sait, c'est toi qui es pécheur. Cette absence de remise en question, pour eux, elle est inconcevable. Ce qui les fait réagir chez Jésus, c'est que si jamais ils acceptent que Jésus soit qui il est, eux, ça les remet en question. Ça remet en question leur vision du monde, ça remet en question leur identité juive à l'époque. L'identité juive se résumait par trois choses. Ça se résumait par le respect de la Torah, le temple et la circoncision. Il y avait un enjeu tel dans les pharisiens de l'époque étaient là à dire, mais si on regarde l'histoire, on a été exilés, on est revenu d'exil il y a 400 ans, et si on a été exilé, c'est parce qu'on a désobéi à la Torah. Donc maintenant, et c'est ce qu'on voit dans le livre de Néhémie, maintenant il faut obéir à la Torah, il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas qu'on s'en écarte. Et donc c'est de là que naissent notamment les mouvements comme les pharisiens, en disant, comme un bon évangélique, il va dire, ma référence, c'est la Bible. Pour eux, la référence, c'est la Torah. Et attention à celui qui risque de nous en faire écarter. Et pour eux, Jésus, ce n'est pas juste qu'ils sont méchants vis-à-vis de Jésus, c'est que pour eux, ils voient en Jésus un risque de désobéir à Dieu. Un risque de désobéir à la Torah. Et du coup, leur propre compréhension est bloquée et leur propre vision du monde est bloquée en se disant « Jésus est une menace pour notre pérennité, pour notre propre compréhension. » Et pourtant, Jésus est Dieu et il a cette liberté d'être au-dessus de la Torah parce que c'est lui qui l'a inspiré. Et des fois, Dieu vient, ça chamboule, des fois on peut être bloqué ou limité dans notre capacité à le suivre parce que ça chamboule notre propre compréhension du monde. Ça vient remettre en question trop de choses et du coup on bloque et on ne veut pas aller plus loin parce qu'on se dit... Si on va plus loin, alors mon raisonnement il est plus cohérent, alors j'arrive plus à tout expliquer, j'arrive plus à mettre toutes les choses dans les boîtes et ça me dépasse et ça me fait peur. Mais ce que Jésus veut nous montrer dans cela, c'est de dire que oui, le monde nous dépasse et oui, Dieu nous dépasse et que c'est normal de ne pas tout comprendre. Mais justement, ça nous amène, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on veut maintenir notre propre vision du monde ou est-ce qu'on est prêt à suivre celui qui est le Créateur et qui connaît toutes choses. Une fois qu'on a dit ça, une tendance naturelle pourrait être de dire, de culpabiliser, de dire, pauvre de moi, je suis bloqué dans mon aveuglement. C'est un peu ce que font les disciples au début en disant « Qui a péché ?» C'est soit ses parents, soit lui. Ils ont juste une compréhension de se dire « Mais la situation n'amène qu'à un blocage de culpabilité. » Et Jésus leur dit « Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas de savoir de qui c'est la faute. Le sujet, c'est que Dieu veut faire une œuvre créatrice. Dieu veut ouvrir les yeux. Dieu veut nous rendre la vue. Dieu veut faire son œuvre libératrice. » En nous. Et des fois, le passage de jugement que j'ai lu tout à l'heure, le fait que je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et pour ceux qui voient deviennent aveugles, des fois on l'interprète comme soit on est du bon côté, soit on est du mauvais côté. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Ça ne peut pas être utilisé en disant d'une manière fataliste. Si Jésus le dit de cette manière-là, ce n'est pas juste pour dire bah, « Tant pis pour vous, les gars, vous n'êtes pas élus, du coup, c'est dommage. » Alors, je crois à la prédestination, mais ça ne va pas être le sujet de ce matin. Mais dans la Bible, la prédestination n'enlève jamais la responsabilité chez l'homme. N'est jamais une excuse pour dire c'est une fatalité, tu ne pourras jamais être sauvé. Elle est utilisée pour enlever tout orgueil qu'aurait quelqu'un de se dire « moi, je mérite mon salut ». Mais là, ce que fait Jésus, il pointe du doigt, pas pour condamner définitivement, et dit « ça apporte un jugement, le fait que je vienne sauver la personne, il faut couper le bras, donc mon acte de mettre en lumière, ça met aussi en lumière votre péché. Et oui, si vous demeurez dans votre condition actuelle, vous êtes sur le chemin du jugement. Le fait de rejeter Christ, ça vous amène inévitablement à la mort éternelle. » Donc, il a raison de dire que ceux qui sont bloqués dans leur aveuglement spirituel sont jugés, sont morts. Mais en même temps, quand ils le disent, c'est pour leur dire « mais du coup, venez à moi ». Malheureusement, il y en a qui resteront dans cette voie en disant « on préfère les ténèbres à la lumière », mais ce n'est pas une fatalité. La preuve en est avec l'exemple de Saul de Tarse. Lui aussi faisait partie des pharisiens, et lui aussi, en voyant Jésus, a été à la fois d'abord aveuglé, puis ensuite éclairé. Ses écailles sont tombées de ses yeux. Et je trouve ça intéressant parce que l'exemple de Paul a eu lieu historiquement avant que l'évangile de Jean soit écrit. Jean a écrit son évangile vers la fin du 1er siècle, et donc il connaissait déjà le témoignage de Paul. Et je trouve ça intéressant aussi, ça nous parle sur le miracle de Jésus. Des fois, on peut se dire, mais pourquoi il a mis de la boue pour renforcer l'aveuglement et lui a dit d'aller se laver les yeux. Je trouve que dans ce miracle-là, finalement, ça parle aussi aux pharisiens pour leur dire, regardez, vous en êtes qu'à la première étape du miracle. Vous en êtes au moment où je vous montre que vous avez de la boue sur les yeux. Maintenant, la prochaine étape, si vous l'acceptez, c'est d'aller au bassin de Siloé pour vous laver les yeux. C'est d'aller vers l'envoyé de Dieu. Et on y reviendra dans une seconde. Donc, il n'y a pas de fatalité, mais il y a plutôt Dieu qui veut faire cette œuvre d'ouvrir les yeux dans notre vie. Et si Jésus utilise de la boue et de la salive, c'est aussi intéressant et significatif. La boue nous rappelle le fait que l'on est né de poussière, ça nous rappelle l'acte créateur de Jésus. Donc s'il y en a bien un qui peut faire quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire, c'est Jésus. Il peut faire cet acte créateur dans nos vies, de nous ouvrir les yeux. Et l'autre aspect intéressant, c'est la salive, où à l'époque, la salive était plutôt vue comme un moyen de contaminer les autres par des maladies, donc c'était quelque chose de mal vu. Et là, on voit que par ce symbole-là, Jésus est en train de dire « Moi, je veux vous contaminer, mais avec en bien. Je veux vous influencer avec la vie qui est en moi. Je veux vous contaminer. » En plus, Jésus est aussi présenté comme la lumière. Et dans l'évangile de Jean, notamment au début, on voit que la lumière était dès le commencement. On voit bien clairement que Jésus est la bonne personne pour arriver à nous sortir de cet aveuglement. Et j'en reviens à l'histoire de Siloé. Le bassin de Siloé et le fait que c'est précisé que c'est l'envoyé, que ça veut dire l'envoyé. Dans ce passage-là, c'est une indication qu'en lien avec la fête de Soukhot, la fête des cabanes, qu'on appelle aussi la fête des moissons. Dans chapitres 7 et 8, Jésus est venu à Jérusalem justement pour cette fameuse fête, la fête des cabanes, la fête des moissons. Et dans cette fête, il se passe plein de choses, mais il y a notamment une chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a le grand prêtre qui sort du temple, qui descend en bas de la ville, qui va dans le fameux bassin de Siloé, il puise de l'eau, à peu près un litre d'eau, et il le ramène dans le temple et il le verse en libation dans une cuve. Et ça, c'est une prière. Alors, pourquoi il fait ça? Parce que la fête des moissons arrive à la période de septembre-octobre. Et à cette période-là, c'est la période où on a fini de récolter les fruits de la saison actuelle. Et donc, on remercie Dieu pour ça. Mais surtout, c'est la période de l'année où le temps de l'été est fini, avec les grosses chaleurs. Pensez aux chaleurs d'Israël et pas forcément aux chaleurs d'ici. Et c'est le moment où il y a les premières pluies qui doivent tomber. Et si elles ne tombent pas, ça veut dire que l'année prochaine, il n'y aura pas de récolte. Donc, il y a un enjeu énorme que les pluies tombent. Et c'est pour ça que le grand prêtre va puiser de l'eau au bassin de Siloé pour l'amener auprès de Dieu, pour que ce soit un acte en fait, de prière, pour dire « Seigneur, s'il te plaît, bénis-nous en faisant tomber la pluie, parce qu'on en a besoin. Pour notre vie, pour que la vie soit abondante, on a besoin que tu fasses tomber la pluie. » Et je trouve ça significatif, parce que dans ce passage, si on revient à notre guérison de notre cécité spirituelle, Jésus, en faisant référence à ça, il dit « Voilà, pour avoir la vie, et la vie en abondance que je suis venu amener, vous avez besoin que je vous ouvre les yeux, et cela passe par moi, Jésus. » Et dans Jean chapitre 7, à ce moment-là, justement, de la fête, qui est le dernier jour, Jésus va dire que celui qui a soif, il vienne à moi, et moi, je ferai en sorte qu'il y a des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Et Jean précise qu'il parlait du Saint-Esprit qui allait être donné. Donc on voit que Jésus est la bonne personne pour nous ouvrir les yeux et pour enlever tous les blocages qui peuvent nous empêcher de vivre pleinement la vie abondante qu'il veut nous donner. En conclusion, on voit donc que Jésus peut et veut éclairer notre aveuglement spirituel. On voit qu'il, à la fois, il fait grandir notre compréhension de qui il est, et à la fois, il nous montre nos blocages, mais pas pour nous culpabiliser, pour nous amener à faire appel à lui. L'enjeu, c'est celui de la confiance. Jésus ne nous demande pas d'attendre d'avoir tout compris de lui. Il ne nous demande pas d'avoir expliqué, répondu à toutes nos questions avant de pouvoir s'engager ou avant d'aller plus loin avec lui. L'enjeu, c'est l'enjeu de la confiance. Est-ce que tu me fais confiance que les choses te dépassent, que je te dépasse parce que je suis Dieu? Est-ce que tu veux me faire confiance et avancer avec moi? Ce n'est pas une baguette magique, c'est un cheminement que Dieu propose, à la fois dans la conversion, mais aussi dans la vie du chrétien, dans la sanctification. Et on voit que Dieu utilise notamment plusieurs moyens, utilise l'Église, on voit que Dieu utilise la grâce commune. Mais en tout cas, le prochain pas qu'on peut identifier, c'est celui que fait l'homme qui a été guéri, c'est de se prosterner auprès de Jésus. Et je trouve ça parlant de se focaliser sur l'adoration en disant, en effet, si je tourne mes regards vers Jésus, ça m'aide à tourner les regards vers celui qui peut faire avancer les situations. Tandis que si je regarde plutôt à mes propres limites, je peux être des fois découragé et culpabilisé et juste bloqué. Donc l'invitation, comme un des chants nous a dit ce matin, c'est de tourner nos regards vers Jésus pour se dire que là où moi je suis limité, là où moi j'ai des incapacités, lui peut intervenir et me faire cheminer dans une plus grande compréhension de qui il est et dans la vie abondante dans laquelle il veut nous amener. Et je vous invite à la prière. Après, on passera un temps de chant. Seigneur, merci parce que tu nous éclaires et tu fais ces deux choses, à la fois de nous faire grandir dans une compréhension et à la fois de montrer nos blocages. Et merci parce que si tu le fais, ce n'est pas de manière écrasante ou juste pour nous laisser dans nos limite, mais c'est pour nous amener vers ta vie abondante. Merci parce que toi, le premier, tu as, alors que nous n'avions même pas conscience ou même pas envie, toi, tu es venu sur terre et tu veux faire cette œuvre créatrice dans nos vies, Seigneur. Tu veux faire cette œuvre nourricière dans nos vies. Et tu en as pleinement la capacité, Seigneur. Je te prie pour que Tu nous guides, qu'on ne soit pas dans, dans une introspection exagérée qui soit juste culpabilisante, mais que l'on puisse te faire confiance, Seigneur, que tu sais nous éclairer au bon moment, dans les bons endroits de notre vie, que nous ne sommes pas seuls, que tu nous mets dans une église avec des frères et sœurs qui peuvent nous aider, que tu donnes aussi, par ta grâce commune, aussi des médecins, des psychologues, etc., autour de nous, Seigneur, qui peuvent aussi être utiles. Seigneur, on veut te dire merci en tout cas de ce que, même si les choses des fois nous dépassent et on ne comprend pas tout, on sait que toi, tu nous tiens par ta main. On sait que toi, tu nous guides à bon port, Seigneur. Et du coup, c'est toi que nous voulons suivre. C'est vers toi que nous voulons que nos yeux, Seigneur, se tournent encore et encore. Amen.